Bonjour. En tout cas, je suis reconnaissant d'être parmi vous et j'ai l'habitude de toujours prier pour les églises et les groupes que je visite. Et tout au long de l'année, je prie pour vous et pour les personnes qui soutiennent. Et ce matin, c'est une réponse à ces prières et c'est quelque chose d'important de voir vos visages ici. Je vais essayer de parler en anglais. De passer du français à l'anglais, c'est pas toujours une chose facile et j'ai pas non plus envie de trop rallonger. But I will try to say the most important things for you to be able to follow a little bit of what you're going to see this morning. Et donc je suis reconnaissant, je vous remercie pour cette invitation qui me permet de vous parler un petit peu de l'association Unité Solidaire et de son travail en Thaïlande. This morning we are going to talk about the work of the ministry, a French ministry. The name is Association Unité Solidaire, which means unity and solidarity. And this is what we're going to talk about this morning. Et UNISO, comme on l'appelle, ce qui est une contraction, uni, unité, So, solidarité a pour but d'aider les personnes pauvres et en danger, et particulièrement les enfants, dont les orphelins. Et pour cela, on est parti du constat qu'il faut que nous soyons présents et que l'on comprenne quatre parties importantes dans la vie des orphelins. Premièrement, le village, qui est l'endroit d'où les enfants viennent et où sont leurs racines. Et là, l'action correspondante est le développement communautaire. Alors, je reviendrai sur tout cela plus tard. Je vais déjà vous donner un petit peu l'image d'ensemble. Donc, premièrement, le village. Deuxièmement, l'orphelinat, qui est le lieu de vie et de croissance des enfants. Troisièmement, l'école où l'enfant reçoit l'éducation et où il découvre les valeurs sociales. Et quatrièmement, l'église où l'enfant va développer une vie spirituelle à la rencontre de l'évangile. Alors tout au long des années, parce que ce travail nous l'avons commencé avant même la création de l'association, tout au long des années, nous avons essayé et mis l'accent sur différents types d'actions. Vous me connaissez, vous avez vu un petit peu l'évolution de ce travail. Pendant longtemps, je me suis occupé d'enfants à l'orphelinat. Quand on a pu construire un nouvel orphelinat, UNISO a aidé à la construction d'un nouvel orphelinat. J'avais à ma charge ce qu'on appelait l'ancien orphelinat, où je m'occupais d'un groupe d'enfants. Et puis nous avions aussi des programmes de développement communautaire, comme par exemple un programme d'éducation dont le but était d'aider à la réinsertion des femmes qui venaient du trafic humain. C'était un programme qui était soutenu par la mairie de Val-d'Oise. Et puis un programme d'aide alimentaire. Mais maintenant, comme vous allez le voir ce matin, nous nous concentrons plus sur l'éducation. Je suis enseignant d'une classe de 6e et cela me donne moins de temps pour visiter les villages éloignés, les villages isolés, et donc il a fallu qu'on arrête ou qu'on mette en pause certains programmes, principalement des programmes de développement communautaire. Donc j'ai parlé d'éducation et je vais commencer ce matin par vous présenter le ministère de l'école chrétienne de la promesse. Alors ce matin, on va parler de l'école de la promesse, qui est une école chrétienne qui aide des enfants qui ont été mis à risque par le trafic humain. On va parler de l'orphelinat, du travail avec l'orphelinat, et puis je vais conclure rapidement en vous présentant un petit peu mes motivations personnelles à faire ce travail en Thaïlande. So first, I'm going to talk about the Christian school we are working with in Thailand. It's a school that is taking care of children that have been at risk with human trafficking. And then we'll talk about the work with the orphanage. We are working with an orphanage. And finally, I'm going to talk a little more of my personal motivation for this work. Le travail de l'école de la promesse, je vais représenter quand même rapidement ce travail. Il s'agit de... Le but de l'école de la promesse, c'est de travailler en Thaïlande du Nord à essayer de briser le cycle de la pauvreté et de l'oppression au travers des opportunités qu'offre l'école et de l'enseignement qui est basé sur l'évangile. Et cet aspect d'un enseignement basé sur l'évangile, c'est quelque chose d'important dont vous allez encore entendre parler avec l'orphelinat, parce que l'Asie et l'Afrique sont des places qui sont, si on peut dire, spirituelles, au contraire de l'Europe et des USA. Par exemple, en Asie, il est normal d'avoir une religion et il est parfois douteux de ne pas avoir de religion, alors que c'est le contraire en France. Et le bouddhisme mélangé à l'hindouisme cultive le culte des esprits, la peur des fantômes, le culte des anciens, surtout en Asie du Sud-Est. Et l'apport de l'évangile dans la vie de ces enfants leur permet d'être libérés d'une pression importante due aux superstitions. Alors, l'école de la promesse, je suis enseignant d'une classe de 6e et avec mes collègues, nous essayons de rencontrer les besoins donc matériels mais aussi spirituels de ces enfants qui ont été donc mis à risque par le trafic humain et qui pour beaucoup viennent d'orphelinats. Et donc nous voulons leur apporter un enseignement de qualité. Hein, c'est une école bilingue qui est inscrite dans le système éducatif thaïlandais et ces enfants vont apprendre avec des classes en thaïlandais et en anglais, ce qui est un avantage important pour leurs futures études. Et donc un enseignement de qualité, cela veut dire créer des classes de thaï appropriées avec des méthodes d'enseignement centrées sur l'étudiant. Alors je dis que ces enfants ont été mis à risque ou viennent de familles pauvres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des méthodes d'enseignement centrées sur l'étudiant. Par exemple, dans ma classe, j'ai un jeune dont le père est en prison pour trafic et sa mère qu'il a eue quand elle était encore jeune, peut-être 15 ou 16 ans, ne s'intéresse pas à lui. Et donc elle est très peu présente et ce jeune à 11 ans vit plus ou moins seul chez lui et livré à lui-même. C'est donc un jeune qui est à risque aussi parce que les personnes qui visitent sont parfois des relations douteuses de son père. D'où le risque qu'il se fasse emmener par des gens mal intentionnés ou des cercles mafieux. Donc c'est un jeune que l'on se relaye pour visiter à la maison, mais il passe aussi des périodes de vacances dans la famille du directeur de l'école. Mais on ne peut pas s'assurer qu'il mange tous les jours à sa faim ou bien qu'il fait sa lessive. Et la seule chose qui est solide dans sa vie, qui est régulière, eh bien, c'est l'école. C'est ça c'est là où il va trouver les bonnes habitudes et qu'il va voir les comportements à imiter. C'est là qu'il va être repris quand il va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est là que l'on va pouvoir faire, jour après jour, le bilan de sa situation. Et donc, vous voyez que les orphelinats chrétiens et les écoles chrétiennes ont un petit peu le rôle, si je peux dire, d'un phare dans la vie de ces enfants qui va les orienter et les guider sur le chemin qu'ils doivent suivre, mais qui va aussi apporter de la lumière dans leur vie, dans ces moments sombres de leur vie. Alors quelque chose que j'avais déjà dit l'année passée, mais qu'il est important de répéter, c'est que en tant que missionnaires, nous ne sommes pas bénévoles, nous sommes salariés, mais nous redonnons intégralement notre paye à l'école. Car l'école, comme l'orphelinat, fonctionne grâce aux dons. Et l'école va offrir la scolarité à ses enfants pauvres. Seulement, étant une école chrétienne, nous ne recevons donc pas d'aide du gouvernement. C'est pour cela que nous acceptons de redonner notre paye pour aider l'école. Parce que si nous étions une école publique, nous recevrions cette aide, mais le programme scolaire inclut pour les étudiants un certain nombre de visites au temple, ainsi que toutes les fêtes bouddhistes. Donc nous voulons les enseigner, comme je le disais, d'une façon biblique, dans nos classes, Nous avons toujours des petits temps d'études bibliques. Je commence toujours ma classe avec 30 minutes où nous étudions un verset de la Bible. Mais pour cela, il est vraiment important d'avoir des enseignants que l'on n'a pas besoin de payer, ce qui réduit énormément les frais de fonctionnement et ce qui permet de continuer d'offrir la scolarité à ses enfants dans le besoin. Et c'est aussi à cela que sont utilisés une partie des dons que les gens versent à l'association Unité Solidaire, pour combler cette différence et pour que l'on puisse continuer à travailler avec l'école de la promesse. Et c'est aussi pour cela qu'un des points les plus importants de l'association, c'est de trouver des personnes prêtes à investir mensuellement, peut-être 10, 20, 30 euros, suivant ce que le Seigneur met sur votre cœur, parce que pour nous, cela fait une grande différence. Alors, quelque chose que j'aime bien faire, et vous le savez, c'est regarder une petite vidéo. Premièrement, parce que ça nous permet de reprendre notre souffle, mais aussi parce que comme ça, vous voyez un petit peu le visage des enfants. Et dans la première partie de cette vidéo, vous allez voir mes élèves de l'école de la promesse. Dans la deuxième partie, vous allez voir l'orphelinat. Et après cela, je vous parlerai un petit peu de l'orphelinat et je reviendrai sur mes motivations avant de conclure. Donc ce que l'on peut faire maintenant peut-être, c'est regarder la vidéo. We are going to watch video and in this movie, 5 minutes long, and you'll see the first part is the school, the Christian school, the second part is the orphanage.
Cliquez maintenant sur le lien pour lire la vidéo.
Voilà. Donc, un des piliers dans le travail de l'association Unité Solidaire en Thaïlande, c'est aussi, vous les avez vus dans la vidéo, le travail avec l'orphelinat House of Blessing à Chiang Mai. C'est là que nous avons commencé, avant même la création de l'association, avec un programme de parrainage et un programme pour offrir des vacances aux orphelins. Alors, comme je l'ai dit, pendant longtemps, je me suis occupé d'un groupe d'enfants sur place. Il faut savoir que, malheureusement, toutes les maisons pour enfants et les orphelinats, donc orphelinat, c'est pour les orphelins qui n'ont plus du tout de famille, et maisons pour enfants, c'est pour les enfants qui ont encore des proches. Et ces institutions ne sont pas toutes chrétiennes, ne sont pas toutes transparentes et ne font pas toutes un très bon travail. Mais quand ces institutions font le travail qu'ils doivent faire, ils ont principalement deux rôles. Le premier est celui d'être un refuge pour ces enfants qui n'ont pas d'autre endroit pour vivre. Et le second, c'est d'être un abri contre le trafic humain. Le trafic humain est malheureusement un danger présent en Thaïlande. Et il est malheureusement relativement facile de se rendre dans ces villages isolés, des personnes mal intentionnées ou des groupes mafieux, de bien s'habiller, d'aller dans ces villages isolés, de rencontrer ces familles très pauvres et sans éducation, et à l'aide de belles promesses, par exemple en disant « Vos enfants vont aller étudier dans une grande école, et plus tard ils pourront vous renvoyer de l'argent, ou votre enfant va venir travailler dans une grande entreprise et il pourra vous renvoyer de l'argent tous les mois, à l'aide de fausses promesses, partir avec ses enfants qui vont être pris dans le cercle vicieux du trafic humain. Donc la prostitution, l'esclavagisme, le travail de l'enfant, etc. Et donc ces enfants ne reverront jamais leur famille. Donc une fois que ces jeunes arrivent à l'orphelinat, ils sont protégés contre ce type de trafic. Alors, ces jeunes, j'en avais déjà parlé, et je ne vais pas trop m'étendre sur l'arrière-plan de ces jeunes qui viennent pour la plupart de groupes tribaux, dont les plus connus sont les tribus Aka, Karen, Mon. Et il n'y a pas seulement un seul cas de figure qui fait que ces jeunes viennent vivre à l'orphelinat. Ils ont tous un arrière-plan différent. Mais bien souvent, le problème qui se pose, c'est que soit ils n'ont plus de famille, ils ont été abandonnés, ou bien leurs parents sont trop pauvres pour s'occuper d'eux d'une façon décente, ou les parents sont malades, ou sont en prison, ou encore parce qu'il n'y a pas d'école dans leur village. Et donc, une fois arrivés à l'orphelinat, ils sont pris en charge par l'équipe qui va s'occuper d'eux sur place. Ces jeunes vont arriver à des âges différents. Certains d'entre eux ne parlent pas le thaïlandais, ils parlent seulement leur dialecte. Et une fois arrivés à l'orphelinat, ils vont être pris en charge par l'équipe qui va s'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin dans un environnement familial et donc avec un enseignement qui est celui de l'Évangile. Donc, c'est là que les parrainages rentrent en jeu pour l'alimentation, pour les vêtements, pour la santé, pour le matériel scolaire. Et pour l'orphelinat, ils doivent trouver un parrain pour chacun des 130 enfants qui vivent à l'orphelinat, parce que c'est au travers des parrainages que l'on peut subvenir aux besoins de ces enfants. Et c'est de ce constat que l'association est partie pour créer un programme de parrainage pour soutenir l'orphelinat House of Blessing. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui le programme de parrainage de l'association prend en charge complètement 21 enfants. Et maintenant, nous nous concentrons plus sur le parrainage d'étudiants. Pourquoi parrainer des étudiants? Parce qu'en Thaïlande, en Asie, et c'est plus marqué qu'en Europe, c'est beaucoup plus marqué, il est très important pour ces jeunes d'obtenir le diplôme du bachelor. Sans ce diplôme, beaucoup de ces jeunes vont se retrouver à la pompe à essence ou au champ avec un salaire de 200 ou 300 euros par mois. Mais ce n'est pas là qu'est le plus gros du problème. Le problème, c'est qu'après 5 ans ou 10 ans à faire cela, ils voient qu'ils n'ont pas de possibilité d'évolution, qu'ils ont peu d'argent, ils s'ennuient, et c'est là qu'ils commencent à prendre des habitudes que je qualifierais d'illégales. Et c'est comme ça qu'ils se mettent dans des situations catastrophiques. Par exemple, il y a quelques années, on a deux jeunes qui ont demandé à sortir de l'orphelinat à 18 ans. Ils se sont trouvés un tuteur, un responsable légal à l'extérieur, et ils ont dit « on va aller travailler ». Et voilà qu'un an plus tard, malheureusement, on les a retrouvés morts dans le canal. Parce qu'ils n'avaient pas d'encadrement autour d'eux, ils n'avaient pas d'espoir, et ils avaient une vie qui n'était pas une vie saine. Donc, le diplôme du bachelor permet à ces jeunes d'avoir l'assurance de trouver un travail avec un salaire moyen, de pouvoir regarder vers le futur avec de l'espoir, et de pouvoir donc repartir dans la vie sur des bases solides. Et c'est ça la vision de l'orphelinat, c'est d'offrir une réelle seconde chance à ces enfants, réelle parce qu'on ne veut pas seulement les prendre en charge aujourd'hui, sans penser à demain, mais parce qu'on veut les prendre en charge aujourd'hui, complètement, en pensant à ce qu'ils vont faire demain, et en leur donnant la chance de pouvoir repartir à zéro, comme tous les enfants devraient pouvoir le faire. Alors la difficulté qui se pose, c'est qu'il faut déjà trouver un parrain pour les 130 enfants de l'orphelinat, mais un an d'université revient en termes de coût à un an de parrainage, c'est le même montant. Et c'est un montant, un coût que l'on ne peut pas remettre au parrain, parce que sinon en termes de coût, ça reviendrait à parrainer deux enfants, puisque un an de parrainage et un an d'université ont le même coût. Donc c'est pour ça que l'association va aider à rechercher des parrains pour pouvoir financer ces 4 ou 5 ans d'université. Il faut savoir que parrainer un enfant, c'est très bien et c'est louable. Cela permet de le voir grandir et de prier pour lui lors de sa croissance. Mais parrainer un étudiant, c'est remettre entre ses mains les clés de son futur. Un enfant qui a peut-être été abandonné, qui a peut-être été battu, abusé, on sait les conditions lamentables dans lesquelles parfois ils vivent au village et la façon dont les familles s'occupent d'eux. Et c'est remettre entre les mains de cet enfant les clés de son futur en lui disant « tu peux repartir à zéro » et comme tous les enfants devraient pouvoir le faire, repartir dans la vie et construire ton futur. Alors ça, c'est pour le programme de parrainage. Et j'aimerais aussi dire quelques mots sur Beach Project. Je vous en parle tous les ans, mais pour moi, c'est l'occasion de vous remercier. Parce que sans vous, ce projet ne pourrait pas avoir lieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul projet qui ne pourrait pas avoir lieu. Et c'est vraiment un programme que les enfants aiment beaucoup. Vous l'avez un petit peu vu dans la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, Beach Project, le but, c'est d'offrir des vacances aux orphelins. Donc, ce sont les 30 ou 40% d'enfants qui vivent à l'orphelinat et qui ne rentrent jamais au village. Ils vivent toute l'année à l'orphelinat. Donc, ça leur permet de sortir un peu et de voir quelque chose de différent. Alors, ce programme, si vous voulez voir le résultat de vos dons, et peut-être que vous l'avez déjà fait, vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube, et vous écrivez mon nom, Jérôme Pissard, et vous verrez là tout un tas de vidéos. Certaines sont plus anciennes, du voyage des enfants et du travail que l'on fait en Thaïlande. Il y a aussi une page Facebook, si vous utilisez Facebook, qui s'appelle Groupe pour la Thaïlande. Et si vous me donnez votre adresse email, je pourrai vous envoyer la lettre de nouvelles de l'orphelinat. Voilà, maintenant, avant de conclure, je voulais vous présenter rapidement mes motivations un petit peu plus personnelles à ce travail. Et motivations que l'on partage peut-être lorsque l'on va vers notre prochain pour l'aider ou pour essayer de le rapprocher du Seigneur. Et pour cela, j'aimerais citer un verset dans les psaumes, le psaume 141 au verset 2. Dans le psaume 141 au verset 2, David dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et cette image de nos prières qui montent vers Dieu comme la fumée de l'encens brûlée sur l'autel, c'est cela qui m'inspire un petit peu. Parce que quand je prie pour l'association, pour les gens que l'on aide, pour les personnes qui nous aident, pour tous ceux qui participent, j'imagine notre travail un petit peu comme une offrande sur un plateau. Cette offrande, c'est l'association, son travail et les fruits de ce travail. Et nous amenons ce plateau avec cette offrande, avec ses fruits, tous ensemble devant Dieu. Et pourquoi tous ensemble? Parce que sans les bras qui portent ce plateau, sans votre aide, il n'y aurait rien à offrir. Et cette offrande, cette action, les fruits de cette action, c'est aussi la reconnaissance des personnes qui ont été bénies au travers du travail de l'association. C'est aussi le succès des enfants qui réussissent, à qui l'on veut donner une seconde chance. Et c'est l'amour qui naît de tout cela. Et nous apportons ce travail, cette action, cette offrande au travers de nos prières. Nous l'apportons devant Dieu parce que nous voulons présenter à Dieu les fruits de notre travail pour qu'il soit satisfait de ce que l'on fait en son nom. Et c'est une façon aussi pour nous de nous placer devant sa face, dans la lumière de son regard et de son jugement, parce qu'il y a un avertissement à cela, c'est qu'il faut que nous soyons purs et sans tache, de peur que notre offrande ne soit pas acceptable. Donc la vision de l'association, c'est un petit peu, si vous voulez, pour moi, c'est nos prières, nos actions en tant que prières de louange qui montent vers Dieu, comme le dirait Romain, comme un culte raisonnable, un culte spirituel, un sacrifice vivant. Et la vision de l'association, c'est d'être ici en France, d'être en Europe, dans les églises, tous ensemble, unis, pour former une unité avec une puissance d'action multipliée. Unité qui va être solidaire des personnes qui sont dans le besoin, des écoles et des orphelinats qui veulent aider ces enfants. L'association existe pour faire ce que l'on ne peut pas faire en tant qu'individu. Je sais qu'ici, chacun de nous veut aider son prochain et on le fait tous à notre manière, avec nos moyens. Seulement, malheureusement, parfois on aimerait faire plus et comme on dit, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas aider tout le monde. Alors qu'ensemble, nous avons plus d'impact. Donc pour conclure, pour que nous puissions être une unité solidaire, il faut que nous soyons une unité solide. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, on peut aider le travail de l'association à Chiang Mai en Thaïlande de différentes façons. On peut par exemple parrainer un enfant ou on peut aider à un projet. Par exemple, en ce moment, nous avons un projet de construire une petite maison pour l'équipe d'encadrement parce que l'encadrement aussi donne complètement de leur personne, ils vivent à l'orphelinat et eux aussi ont un salaire de 200 à 300 euros par mois. Et quand je vivais à l'orphelinat en 2012, j'y vis encore maintenant, mais à l'époque je vivais dans une chambre et j'ai déménagé de cette chambre pour vivre dans l'église. Et dans la chambre où je vivais, il y a une famille de 4 personnes qui vit, dans la chambre où je vivais seul. Donc c'est pour eux que nous voulons construire une petite maison. Et puis on peut aussi, et c'est cela le plus important, aider en donnant mensuellement un petit peu, suivant ce que le Seigneur met dans votre cœur. Et ça c'est le plus important parce que c'est cela qui, c'est pour la pérennité de l'association. C'est grâce à cela que l'on peut fonctionner, mais c'est aussi pour l'entretien des projets. C'est grâce à cela que les enfants peuvent partir à la mer en vacances. Et c'est aussi, et c'est important, pour que l'on puisse continuer à travailler avec l'École de la Promesse pour offrir un enseignement de qualité avec ces enfants donc, qui ont échappé au trafic humain. Alors, pour combler un petit peu à cette différence, comme je le disais, parce que Dieu est bon, et je ne suis pas enseignant de formation, mais après des heures et des heures de pratique et de formation, grâce à Dieu, j'ai obtenu l'année passée ma carte d'enseignant avec un numéro d'immatriculation au ministère de l'Éducation nationale. Donc ce qui me permet d'être enseignant, ce qui me permet aussi d'être tuteur TOEIC pour l'examen du TOEIC, qui est l'examen d'anglais pour la communication internationale. Donc ça me permet de donner des cours privés qui me permettent de me prendre en charge un petit peu sur place. Donc Dieu est bon et il veut nous conduire dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous. Et on l'a dit ce matin et quand j'ai entendu le verset, j'ai dit merci Seigneur, il n'y a pas de hasard. Dieu veut nous conduire dans ses œuvres et nous utiliser dans ses œuvres. Et que ce soit pour moi, pour les personnes en Thaïlande, pour nous tous, nous voulons courir vers ce but qui est celui de recevoir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est vraiment ça notre motivation à ce travail et le cœur de notre action en Thaïlande. Alors je vous remercie pour votre invitation. Je regrette de ne pas avoir pu traduire un petit peu plus. I'm sorry that I didn't translate, but I didn't want to take too long. Et si vous avez des questions, vous pouvez encore venir me voir après ce culte. Voilà, je vous remercie.